Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir l'Afrique, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Le Monde Aujourd'hui, édition du mercredi 16 juillet 2014. En direct de Washington, Chérubin Dorcil et Morgane Guiriac. Bonsoir Chérubin.
Bonsoir Morgane.
Au sommaire, ce soir, une forte explosion hier à Ouagadougou. Bilan, au moins 4 morts et 38 blessés.
Reprise aujourd'hui à Alger des pourparlers sur la crise du Nord Mali.
Les femmes centrafricaines réclament leur participation au forum de Brazzaville.
Qu'importe l'endroit, pour nous, c'est qu'il faudrait qu'en plus des deux belligérants, on laisse la place aussi aux victimes pour que ces victimes parlent à leurs belligérants en face.
Marie-Annick, service de l'Organisation des femmes centrafricaines.
En Syrie, Bachar Assad débute un nouveau septennat après une victoire électorale rejetée par l'opposition et l'Occident.
Vers un dénouement de la crise électorale en Afghanistan, un audit de tous les suffrages commence demain. Et nous aurons les sports et la musique en fin d'émission. Pour l'instant, le journal.
Au Burkina Faso, 4 personnes sont mortes et 38 autres blessées dans l'explosion mardi soir d'un dépôt d'explosifs à Ouagadougou, selon la police. Bagassikoura.
32 des 38 blessés ont été évacués à l'hôpital, a déclaré Omer Bationo, directeur général de la Sécurité nationale. Au cours d'une conférence de presse, il a formellement rejeté toute hypothèse d'attentat. Pour M. Bationo, le sinistre d'origine accidentelle a été provoqué par l'activation d'explosifs destinés à un usage minier qui était illégalement stocké dans une maison. 21 maisons se sont effondrées ou ont été partiellement détruites dans un périmètre de 100 mètres autour du lieu de l'explosion. L'accident s'étant produit près de la demeure d'un chef traditionnel qui a rejoint l'opposition a donc suscité de nombreuses rumeurs et supputations à Ouagadougou.
Le gouvernement de Bamako et les groupes armés maliens sont à Alger pour discuter des difficiles négociations afin de trouver un accord de paix. Nicolas Pinault.
Le MNLA, le HCUA, deux branches du MAA et des milices d'autodéfense proches du gouvernement malien sont représentés à Alger. Également sur place, Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, qui a assuré que tout est négociable sauf l'intégrité et la laïcité de l'État. Il s'agit des premières discussions directes après l'accord intérimaire du 18 juin 2013 à Ouagadougou. Mais depuis l'élection du président Ibrahim Boubacar Keïta en août 2013, les pourparlers étaient au point mort. En mai dernier, les trois groupes rebelles, le MNLA, le HCUA et le MAA, avaient mis en déroute l'armée malienne à Kidal. Dans un geste de bonne volonté hier, les parties ont procédé à Bamako à un échange de 86 prisonniers.
En République centrafricaine, les femmes veulent faire entendre leur voix au forum de Brazzaville. Elles ont organisé un sit-in devant le siège de l'Organisation des femmes centrafricaines à Bangui. On fait le point avec Idriss Fall.
Pour l'Organisation des femmes centrafricaines, le forum de Brazzaville a sa raison d'être, mais ne doit pas ignorer les victimes. Il ne faudrait pas que Brazzaville soit une rencontre pour le partage du gâteau entre ex-Séléka et Antibalaka. Anne-Marie Service, vice-présidente de l'OFCA.
Étant donné que c'est pour un accord de cessez-le-feu, il aurait été souhaitable que ça se passe en terre étrangère. Qu'importe l'endroit, pour nous, c'est qu'il faudrait qu'en plus des deux belligérants, on laisse la place aussi aux victimes pour que ces victimes parlent à leurs belligérants en face. Si dans leur acte de cessez-le-feu, il y a des choses qui vont peut-être en résulter, qu'ils ne se leurrent pas, les femmes de l'OCA ne veulent pas qu'on leur donne une place de responsabilité dans le gouvernement.
Par ailleurs, le calme est revenu à Bambari après une tentative d'assassinat hier d'un jeune musulman. Les soldats français travaillent avec la gendarmerie centrafricaine pour empêcher les exactions dans cette ville.
République démocratique du Congo, Kisangani sera la destination finale de centaines de rebelles hutus rwandais. C'est ce qu'indiquent les Nations Unies. Environ 570 combattants des FDLR, qui sont dans des camps au nord et au sud Kivu, devraient ainsi être transférés à Kisangani jusqu'à ce que l'on leur trouve un pays d'accueil.
Toujours dans l'est de la RDC, Médecins sans frontières dénonce l'esclavage sexuel et le travail forcé que des milices infligent aux civils dans des régions minières. Selon MSF, des femmes, des hommes sont parfois retenus captifs pendant des mois.
En Égypte, 7 personnes ont été condamnées à la prison à vie. Elles ont été reconnues coupables de viol. Une première dans un pays où le viol des femmes est monnaie courante et reste impuni. Sarah Diaby.
Les 7 condamnations à la prison à vie correspondent en fait à une peine de 25 ans. Par ailleurs, le tribunal a infligé à 2 autres accusés 20 ans de détention. Ils étaient poursuivis pour tentative de viol, tentative de meurtre et torture. Les agressions sexuelles ont eu lieu sur la place Tahrir. Certains de ces viols ont été commis lors de la célébration de la victoire d'Abdel Fattah al-Sissi à l'élection présidentielle. Le président égyptien, nouvellement élu, avait demandé au ministère de l'Intérieur de punir les coupables. L'Égypte est l'un des pays avec le Maroc où le viol des femmes et le harcèlement sexuel sont monnaie courante et restaient souvent impunis.
Nigeria, selon l'AFP, un ressortissant allemand a été enlevé ce matin par des hommes armés dans l'Adamawa, un des 3 états du nord-est du pays placé sous état d'urgence suite aux violences perpétrées par le groupe islamiste Boko Haram.
Les familles des lycéennes détenues par Boko Haram dénoncent de leur côté l'attitude de leur président. Plus de 3 mois après l'enlèvement de centaines de jeunes filles, Goodluck Jonathan propose de ne rencontrer que quelques familles des victimes. Cette rencontre ne devrait pas être sélective, estiment les familles des victimes.
Tournée africaine de François Hollande, le président français arrivera demain en Côte d'Ivoire. Il se rendra ensuite au Niger, puis au Tchad, où l'annonce de sa visite fait déjà des remous. L'opposant Saleh Kebzabo demande à la France d'être plus exigeante envers le régime du président Idriss Déby Itno. Le Tchad va jouer un rôle central dans la réorganisation de la présence militaire française sur le continent, avec la mise en place d'une nouvelle opération dont le commandement sera basé à N'Djamena.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président syrien Bachar al-Assad a prêté serment aujourd'hui à Damas pour un 3e mandat de 7 ans. Cette réélection a été qualifiée de farce par l'opposition et ses alliés occidentaux. Michel Joseph.
C'est le mois dernier que M. Assad a été réélu dans un raz-de-marée lors d'un scrutin tenu seulement dans les territoires sous son contrôle. Faisant allusion à la situation en Irak avec l'avancée des djihadistes de l'État islamique, Bachar al-Assad a déclaré « Les nations arabes et occidentales qui appuient les terroristes paieront elles aussi très cher ce soutien ». Les forces syriennes ont récemment progressé sur plusieurs fronts face à une opposition mal équipée et minée par des querelles intestines. Plus de 170 000 personnes ont été tuées dans ce conflit qui a fait 2,9 millions de réfugiés et 6,5 millions de déplacés depuis mars 2011.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a accusé les militants du Hamas de crimes de guerre, disant qu'ils prennent pour cible des millions de civils israéliens et utilisent leur propre population civile à Gaza comme bouclier humain. Lors d'une conférence de presse ce mercredi, M. Netanyahou a également critiqué le rejet par le Hamas de la proposition de cesser le feu faite par l'Égypte. Aujourd'hui, l'armée israélienne a demandé à des dizaines de milliers de résidents du nord de Gaza de quitter leur domicile alors que les bombardements continuent.
En Afghanistan, l'audit de tous les suffrages exprimés lors du second tour de la présidentielle débutera demain. En vertu d'un accord négocié samedi par le secrétaire d'État John Kerry, les 2 candidats, Abdullah Abdullah et Ashraf Ghani, acceptent la révision de 8 millions de bulletins et promettent de respecter le résultat final. Le transfert des urnes vers la capitale Kaboul s'effectue sous la supervision de la force internationale. Des représentants des 2 candidats assisteront au processus, de même que des journalistes et des observateurs afghans et étrangers.
4 frappes de drones par les États-Unis ont fait au moins 15 morts dans le Waziristan Nord, annoncent les autorités pakistanaises. L'identité des victimes n'est pas révélée et l'information n'a pas été confirmée de sources indépendantes. Parallèlement, l'armée pakistanaise affirme avoir tué 35 militants dans le cadre d'une offensive contre les talibans.
Reporters sans frontières et l'ONG pakistanaise Réseau Liberté appellent les autorités afghanes à abroger la sentence de 4 ans de prison prononcée à l'encontre du journaliste pakistanais Faizullah Khan. Un tribunal dans l'est de l'Afghanistan l'a condamné pour entrée illégale sur le territoire afghan.
Le gouvernement américain a expulsé cette semaine 38 enfants et leurs mères vers le Honduras. La mesure annoncée aujourd'hui est la première d'une série, alors que l'administration Obama fait face à l'afflux de dizaines de milliers de mineurs sans papier en provenance de plusieurs pays centro-américains. Les autorités prévoient d'accueillir jusqu'à 90 000 cette année, soit plus que le triple du nombre enregistré il y a quelques années.
Voilà pour le journal. Chez Rubin Dorcil et Morgane Guiriec en votre compagnie. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. On enchaîne sur la partie magazine de notre émission.
Et cette partie commence au Burkina Faso.
L'actualité du jour, c'est l'explosion qui a fait plusieurs morts et blessés dans la capitale, Ouagadougou. Pour l'instant, les autorités burkinabées écartent la piste de l'attentat. Elles pensent plutôt à un accident par des explosifs du type utilisé par les chercheurs d'or. Le reportage de notre correspondant Zoumana Wenogo.
Après le choc de l'explosion, l'heure est au bilan et à la recherche des causes. On écoute le colonel Omer Batinou, le directeur général de la sécurité intérieure du Burkina.
Pour ce qui concerne le bilan, il y a 38 blessés, dont 32 ont été évacués par les services de secours à l'hôpital. Il y a eu 2 décès qui ont été constatés. Et ensuite, il y a des morceaux de corps qui ont été retrouvés et on suppose que ces morceaux appartiennent à 2 personnes qui étaient sûrement proches du lieu de l'incident. Ensuite, nous avons eu au niveau des maisons détruites, environ 25 maisons effondrées ou partiellement détruites. Et il y a eu sur un rayon d'environ 100 mètres aussi, des maisons qui ont été touchées, des voitures qui ont été touchées. Et je voudrais préciser que nous pensons écarter carrément déjà la piste criminelle. Il s'agit probablement d'une explosion accidentelle qui a été causée par des explosifs, stockés probablement par des individus qui travaillent sur des sites d'or.
En voulant en savoir plus sur la piste de l'accident privilégié par les autorités, voici ce que le chargé de l'enquête, le lieutenant Issa Paré, a dit.
Au stade actuel de l'enquête, la thèse accidentelle semble privilégiée. Il convient de souligner que déjà nous avons une piste et que nous sommes en train d'explorer et au regard du fait qu'on soutient pour le moment qu'il s'agit d'une explosion accidentelle. Je ne vais pas donner plus de détails sur cette information parce qu'elle peut être préjudiciable à l'enquête. Nous demandons par ailleurs à toute personne pouvant donner des informations donc à nous contacter sans délai.
Zoumana Wenogo, Ouagadougou, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Une enquête de Médecins sans frontières révèle que près de 2600 membres de familles centrafricaines réfugiées à Sido, dans le sud du Tchad, sont morts entre novembre 2013 et avril 2014 lors de la campagne de persécution contre les minorités musulmanes en République centrafricaine.
MSF s'inquiète de la fermeture de la frontière entre la RCA et le Tchad, alors même qu'au Cameroun, les réfugiés qui continuent d'affluer après des semaines d'errance sont épuisés, traumatisés et présentent un état nutritionnel alarmant. Camille Grosdidier a joint Ondine Ripka, juriste à MSF.
Nous avons interrogé environ 3500 familles, ce qui représente près de 25 000 personnes à Sido. Et il en ressort que 2600 personnes, c'est-à-dire près de 8% de cette population, a été tuée dans l'espace de 150 jours, l'essentiel étant vraiment sur 6 semaines en décembre et en janvier, et ce, de morts très violentes, c'est-à-dire on a demandé si vous avez perdu un membre de votre famille, de quoi est-il décédé? 90% de ces personnes répondaient, il a été tué d'une balle, d'une balle perdue, d'un mortier, d'un coup de machette. Et malheureusement, on constate que déjà, cette violence est largement minimisée dans les différents rapports qui sont sortis. Personne ne compte les morts en Centrafrique, c'est incroyable de penser cela. D'ailleurs, on voit l'intensité de ce qui se passe. Et par ailleurs, cette violence n'épargne pas les civils. Si la majorité des personnes tuées étaient des hommes adultes, il y a aussi de nombreuses femmes, de nombreux enfants. Sur ces 3500 familles, il parle de 60 petits bébés, c'est-à-dire 0 à 4 ans, qui sont morts de morts violentes dans cette période de temps très courte.
MSF note par ailleurs que les survivants sont dans un état de santé et dans un état nutritionnel extrêmement alarmant.
Tout à fait. MSF est présente non seulement en Centrafrique, mais aussi dans les pays de fuite, c'est-à-dire principalement le Tchad et le Cameroun. Nos équipes au Cameroun constatent que dans deux des camps dans lesquels ils travaillent, il y a plus de 16 000 réfugiés. Un enfant sur deux de moins de 5 ans souffre de malnutrition. Or, cette population d'enfants de moins de 5 ans constitue 20% des personnes présentes dans ce camp. Il faut imaginer, et ça, de nombreux témoignages concordent, et j'ai interviewé de nombreux réfugiés qui racontent la même histoire. Ils sont partis, ils ont souvent dû marcher pour rejoindre le Cameroun pendant des semaines, voire des mois, buvant l'eau des marécages, se nourrissant de ce qu'ils pouvaient trouver dans la nature. Ils arrivent épuisés, très traumatisés par la violence et ce qui leur est arrivé, et évidemment dans un état très critique. Et la chiffre qui ressort de notre enquête à MSF montre qu'une famille sur trois a perdu un membre de sa famille dans les trois derniers mois, et une famille sur quatre, deux membres. Ce sont des chiffres vraiment très choquants.
Voilà, c'était Ondine Ripka, juriste à Médecins sans frontières.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
République démocratique du Congo, Goma, une ville d'environ 1 million d'habitants au bord du lac Kivu, dans la province du Nord Kivu, n'a pas suffisamment d'eau pour alimenter la population à cause du déficit en énergie électrique. Reportage, Primo Pascal Rodaïgua.
Chaque jour, les habitants de Goma se dirigent vers le lac Kivu avec des bidons de 20 litres pour puiser de l'eau. Les travailleurs et les élèves sont régulièrement en retard au travail ou à l'école par manque d'eau pour se laver.
Il n'y a pas de l'eau dans tout Goma. Si tu tournes ton regard vers la plage du peuple, tu vas voir comment tout le monde est là en train de puiser de l'eau. Les enfants souffrent. Tout le monde vient ici. Nous n'avons pas de l'eau. Les enfants doivent se lever tôt le matin pour venir chercher de l'eau. Nous souffrons.
Pendant la saison 7, au mois de juillet et août, la maladie dite des mains sales, le choléra, est aussi au rendez-vous. Quelques cas ont été enregistrés dans la zone de santé de Karisimbi. Marie Shematsi Baeni est le porte-parole du gouvernement provincial.
90 cas sont déjà confirmés et 3 décès ont été enregistrés au sein de la population avant la prise en charge médicale. Toutefois, les dispositions sont prises pour stopper la propagation de cette endémie. La population est invitée à prendre des attitudes préventives en matière d'hygiène et assainissement, en évitant surtout de consommer l'eau non chlorée.
Le directeur de la régie des eaux au Nord Kivu, Deogracias Kabiona Kizibisha, a fait un horaire de ravitaillement d'eau pendant quelques heures par semaine dans chaque quartier.
Comme on ne peut pas satisfaire tout le monde au même moment, on a opté pour un horaire de délestage, c'est-à-dire on fait les manipulations de vannes pour permettre à ce que les gens puissent avoir de l'eau, c'est-à-dire peu d'eau pour tous. En d'autres termes, le respect de l'horaire d'alimentation, l'horaire qui est fonction de délestage. Et les deux paramètres font qu'aujourd'hui, dans la partie ouest de la ville, il y a maintenant de l'eau potable à la population. Et la partie est de la ville, il y a aussi l'horaire, il y a un horaire aussi pour la partie est.
Pour résoudre définitivement cette pénurie d'eau dans la ville de Goma, il faut avoir de l'énergie suffisante pour faciliter le pompage de cette denrée rare dans le lac Kivu. Depuis Goma, Primo Pascal Rudahigwa pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Faut-il une intervention de la communauté internationale en Libye pour rétablir l'ordre ? Le débat fait son chemin au Conseil de sécurité de l'ONU, fortement alarmé par le chaos ambiant depuis la chute de Muammar Kadhafi. Le professeur Walid Fares, consultant auprès du Congrès américain, est catégorique : si la situation ne change pas, il faudra intervenir.
Oui, bien sûr, si ce chaos va continuer et s'il va y avoir un désastre humanitaire, c'est là le plus important pour la communauté internationale. Donc le Conseil de sécurité devrait adresser la situation. Le gouvernement libyen devrait saisir ce Conseil, mais on sait très bien qu'il y a des problèmes politiques à l'intérieur du Conseil, surtout entre les États-Unis et la Russie. Donc pouvoir arriver à un consensus va être difficile, mais pas tout à fait impossible.
Alors pourquoi le gouvernement libyen lui-même ne prend-il pas l'initiative de demander l'aide de la communauté internationale ?
Aujourd'hui, je pense que le gouvernement libyen est en train de faire des tractations, des négociations discrètes avec les États-Unis pour savoir si elles sont prêtes, y compris leurs partenaires occidentaux, européens surtout. Mais en même temps, il y a des discussions, bien sûr, pas en public avec les Russes, parce qu'eux, ils ont le veto. Si toutes ces tractations s'avèrent positives, donc le gouvernement libyen pourra aller. Il n'ira pas au Conseil de sécurité s'il n'a pas de résultats déjà décidés auparavant.
Que sera la réaction du peuple libyen ? Ne va-t-il pas considérer que l'intervention étrangère est une imposition ?
Oui, les djihadistes, bien sûr, on connaît ce jeu un peu partout dans la région. Quand il y a une intervention étrangère qui est dans l'intérêt des djihadistes, comme a été la première contre Kadhafi, ils vont l'applaudir, ils vont demander même plus. Mais si cette intervention internationale, Nations Unies ou autres, n'est pas dans leur intérêt pour les empêcher de saisir les aéroports et les ports, donc bien sûr, ils vont circuler l'idée que ça, c'est contre la volonté du peuple libyen. Moi, je pense que l'intervention étrangère ou internationale devrait commencer par un référendum, protéger un vrai référendum pour savoir exactement ce que le peuple libyen voudrait.
Voilà, c'était le professeur Walid Fares, consultant auprès du Congrès américain, joint par Jean-Roger Billon.
Et nous passons tout de suite à la page sport de cette émission préparée et présentée par Nicolas Pino. Salut Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
En football, nouveau classement FIFA et l'effet Coupe du Monde se fait sentir.
Ancien numéro 1, l'Espagne éliminée dès le premier tour au Brésil, dégringole à la 7e place alors que le nouveau champion du monde, l'Allemagne, s'empare de la tête devant l'Argentine, finaliste malheureux, et évidemment les Pays-Bas. Le Brésil qui a fini 4e, souvenez-vous de sa Coupe du Monde, est désormais classé 8e. L'Algérie, premier pays africain, est 22e.
Oui, les Fennec qui n'ont pas du tout démérité, ils ont très bien joué au Brésil, Nicolas Pino. Courte vacances pour Luis Van Gaal.
Et oui, nommé entraîneur de Manchester United en mai, avant de mener les Pays-Bas à cette 3e place de la Coupe du Monde, le Néerlandais est arrivé aujourd'hui à Manchester. Il s'est rendu pour la première fois au centre d'entraînement des Red Devils, 3 jours seulement après être rentré aux Pays-Bas. Ce sont de courtes vacances.
Oui, il n'y a pas de temps à perdre pour Luis Van Gaal. À Ouagadougou, décision controversée de la Fédération de football.
Il s'agit de la montée en première division de l'ASEC de Koulougou, aux dépens du Canon du Sud. Les détails tout de suite avec notre correspondant sportif à Ouaga, Salif Kabori.
Lors de la dernière journée du championnat national de 2e division, pour la montée en première division, l'ASEC de Koulougou, basée dans la 3e ville de Burkina Faso et le Canon du Sud, ont battu respectivement le club football de Ouagadougou par 6-1 et San Matenga Football Club par 7-1. Si l'on devait s'en tenir à ces résultats, le Carré du Sud, basé dans la capitale burkinabé, était promu en première division la saison prochaine. Au regard donc de ces résultats, la Fédération burkinabé de football a décidé d'invalider les 2 matchs. Le secrétaire général du Carré du Sud, Bernard Nari.
Nous n'avons pas triché. On a gagné Tengourouet 5-1. On a gagné Kaya sur leur propre terrain 3-0. On a gagné FAC 3-0. C'est une équipe en attaque. Nous, on marque. Ce qui veut dire qu'on a préparé pour monter. Maintenant, ils ont décidé d'annuler la 22e journée en favorisant la secte de Kourou, qui est sanctionnée en même temps que nous et qui accède automatiquement en première division en disant non.
Pour les responsables du Canon du Sud, la Fédération burkinabé de football n'a pas respecté le règlement. Le Canon du Sud a fait appel de la décision de la Ligue nationale de football. Ouagadougou, Salif Kabore, la voix de l'Amérique.
Nicolas, enfin le Tour de France cyclisme.
Eh oui, la grande boucle, Tony Galopin, le français ancien maillot jaune, a remporté aujourd'hui la 11e étape courue entre Besançon et Oyonnax, 187 km. Mais au classement général, le maillot jaune reste sur les épaules de l'italien Vincenzi.
Merci Nicolas.
Salut les amis, Roger Muntou, ici la voix de l'Amérique. Retrouvez-moi dans Washington Forum ce jeudi 18 juillet 2014 à 19h, temps universel. Nous parlerons des échecs et des réussites des artistes africains de la diaspora. Restez branchés.
Après les sports, la musique, comme tous les soirs avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane, salut Gabi. Mais j'espère que vous allez prendre un peu de reggae ce soir. Mais les amis, si vous ne connaissez pas ce groupe et cette chanson, vous allez apprendre à les kiffer bien fort. Magique est un groupe canadien mené par Nasri Atoué, dont le single Hood est le plus téléchargé à l'heure actuelle aux États-Unis. Selon moi, Morgane, c'est le tube de l'été. On écoute Roots.
Saturday morning, jumped out of bed. Put on my best suit, got in my car, raced like a jet, all the way to you. Knocked on your door with heart in my head, to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but no still means no.
Voilà, et c'est ainsi que s'achève Le Monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Michel Joseph a dirigé la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. C'était Morgane Guiriec
et Chérubin Dorcil qui vous invite à nous écrire sur Facebook.
À demain!